VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à toutes et à tous, Anastasie Kudiech avec vous. Il est 18h30 en temps universel. Bienvenue dans le monde aujourd'hui. Au sommaire, au Cameroun, des attaques simultanées de Boko Haram dans deux localités ont fait 4 morts. 48 migrants maliens ont péri en mer. Le gouvernement promet de poursuivre les passeurs en justice. Au Gabon, le Parlement adopte une nouvelle constitution, mais la Cour constitutionnelle aura le dernier mot. Au Sénégal, le bilan du massacre en Casamance s'alourdit à 14 morts avec un nouveau corps découvert dans la forêt. Dans 10 minutes, c'est la Minute Éco et les sports, mais d'abord le journal. 48 Maliens ont péri dans la Méditerranée dimanche 7 janvier 2018. L'information a été donnée par le ministère des Maliens de l'Extérieur et de l'Intégration africaine. Le gouvernement veut engager des poursuites judiciaires contre les passeurs qu'il considère responsables de ce drame. Kassim Traoré.
Ils sont jeunes filles et garçons à la recherche d'un lendemain meilleur, partis du Niger voulant passer par la Libye pour le continent européen. Leur embarcation a pris de l'eau. Sur les 50 morts, 48 sont des Maliens. Après les rescapés maliens au nombre de 69 personnes, dont 2 femmes et 4 enfants ont été identifiés. Moussa Aliou Kone, chef du cabinet du ministère des Maliens de l'Extérieur.
Nous sommes en contact avec notre ambassade à Tripoli. Des instructions lui ont été données pour que très rapidement ces 69 rescapés puissent regagner Bamako. Sur les dires de l'ambassadeur, les corps n'ont pas été retrouvés. Tous les corps n'ont pas été retrouvés, c'est que sûr. Il m'a bien dit que pour le moment, vous savez, il faut du temps pour que la mer rejette les corps.
Au cours du conseil des ministres du mercredi passé, le président Ibrahim Boubacar Keïta a ordonné la mise en berne des drapeaux sur l'étendue du territoire national le jeudi 11 au vendredi 12 janvier 2018. Il a invité la communauté religieuse à organiser des prières collectives pour le repos de l'âme des disparus. Ibeka a instruit les ministres concernés d'entreprendre des actions vigoureuses pour rechercher et punir les passeurs et les complices de ces drames. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Au Sénégal, le bilan du massacre du 6 janvier dans une forêt de Casamance a été revu à la hausse après la découverte d'un nouveau corps. Le bilan est désormais de 14 morts. Le mobile de la tuerie pourrait être lié à l'exploitation illicite du bois précieux dans cette région, située entre la Gambie et la Guinée-Bissau. Nouvelle constitution au Gabon, adoptée hier par le Parlement, avec pour nouveauté un scrutin présidentiel à 2 tours, la non-limite du nombre de mandats et le président de la République qui devient le seul à déterminer la politique de la nation. Nous y reviendrons en partie magazine. Au Cameroun, Boko Haram a attaqué 2 localités simultanément la nuit dernière dans le nord du pays. Les combattants islamistes ont égorgé 3 personnes à Kolofata et enlevé 2 autres. Dans le même temps, des éléments djihadistes ont attaqué la ville d'Assigassia à la frontière nigériane, faisant 1 mort et 1 blessé après avoir incendié une 60aine de cases et emporté des biens, dont des motos et des céréales. Un avocat représentant plusieurs séparatistes anglophones au Cameroun a assuré que Sissiku Ayouk Tabé, président du mouvement séparatiste anglophone au Cameroun, et 9 de ses partisans ont été arrêtés la semaine précédente à Abuja. Il précise, l'avocat, qu'ils ont été arrêtés par les services de renseignement nigérians et qu'ils sont détenus dans ce pays. L'avocat exige également leur libération immédiate. Pour le ministre nigérian des Affaires étrangères, il s'agit d'une convocation pour une enquête en cours. Le président angolais João Lourenço a démis de ses fonctions le fils de l'ancien chef de l'État, José Eduardo dos Santos, qui était à la tête du fonds d'investissement souverain du pays, Nathalie Barge.
José Filomeno dos Santos a été remplacé par l'ancien ministre des Finances, Carlos Alberto López. Le fonds d'investissement souverain aurait versé des dizaines de millions de dollars à un de ses proches, l'homme d'affaires Jean-Claude Bastos de Moret, pour gérer cette entité. Lancé en 2011, ce fonds était doté de 5 milliards de dollars. Depuis sa prise de fonction en septembre, João Lourenço a limogé plusieurs patrons des secteurs les plus sensibles, dont 4 enfants de l'ex-président angolais. La fille dos Santos, Isabelle, a été évincée en novembre de la présidence de la Sonangol, la compagnie pétrolière nationale, qui a ouvert une enquête sur des mouvements de fonds suspects. La société publique de commercialisation des diamants s'est retirée du capital du bijoutier suisse de Grisogono, dont est actionnaire le mari d'Isabelle dos Santos. lors de sa campagne, João Lourenço avait promis d'éradiquer la corruption pour relancer l'économie en déprime suite à la chute des cours du pétrole.
Nathalie Barge. L'Union européenne a exhorté aujourd'hui le Soudan à autoriser les manifestations en cours contre la flambée des prix, assurant suivre de près la grogne sociale et les arrestations de responsables politiques. Plusieurs régions du Soudan sont depuis la semaine dernière le théâtre de manifestations d'étudiants et de citoyens en colère contre la hausse des prix. Troisième nuit de grogne consécutive en Tunisie, des heurts ont éclaté entre forces de l'ordre et jeunes dans plusieurs villes. Plus de 600 personnes ont été arrêtées depuis lundi, selon le ministère tunisien de l'Intérieur. Faisons le point avec Salwa Jafari.
Dans la petite ville de Tberba, les ruelles ressemblent à un champ de bataille. Pneus en flammes, débris et cailloux recouvrent la chaussée. Les manifestants et les forces de police se sont affrontés sans relâche toute la nuit.
Ce n'est pas la faute à ces gens qui ont longtemps étudié pour se retrouver sans travail, sans rien. En ce qui nous concerne, nous devons endurer ces affrontements. Même notre bus a été attaqué avec du gaz lacrymogène. Nous serions mieux de trouver une solution pour nos jeunes.
Mercredi, 328 personnes ont été arrêtées pour vol, pillage, incendie volontaire et blocage de route ces derniers jours, a annoncé le porte-parole du ministère de l'Intérieur, qui a toutefois ajouté que l'intensité des violences a diminué par rapport aux jours précédents. Plusieurs villes ont été le théâtre de cette vague de contestation, dont Siliana, Kasserine, Tbourba et même certains quartiers de Tunis. Les troubles alimentés par une grogne sociale ont éclaté lundi alors que s'approche le 7e anniversaire de la révolution tunisienne qui réclamait travail et dignité et a chassé du pouvoir le président Zine Abidine Ben Ali le 14 janvier 2011.
À Madagascar, l'élection présidentielle se tiendra entre le 25 novembre et le 25 décembre. C'est ce qu'a annoncé hier la commission électorale. Mais la date précise n'est pas encore connue. Le président de la CENI, Herry Rakotomanan, a annoncé hier que l'élection présidentielle devrait se dérouler cette année. Mais il revient au gouvernement de déterminer la date précise.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ailleurs dans le monde, ici, aux États-Unis, au moins 17 personnes ont trouvé la mort et des centaines de maisons ont été détruites suite à des coulées de boue provoquées par de fortes pluies dans le sud de la Californie. Abdourahman Dia.
Ce jeudi encore, des centaines de secouristes se sont levés très tôt pour tenter de retrouver d'éventuels survivants et sortir des corps ensevelis sous la boue dans le riche comté de Santa Barbara, au nord de Los Angeles. Des chiens renifleurs sont mis à contribution, mais la tâche s'avère difficile car beaucoup de zones sont difficiles d'accès et les secours ne se font que par voie aérienne. Quelques 30 000 personnes ont été conseillées d'évacuer. Parmi les victimes, la star de la télé Oprah Winfrey. Une partie de sa maison a été endommagée. Kelly Wimmer, une autre résidente, attendait avec anxiété d'avoir des nouvelles de ses parents âgés dont la maison a été détruite. Il y a d'autres, comme ce couple, Jim et Alice, qui ont choisi d'ignorer l'appel des autorités à quitter la zone. Le bilan risque d'être révisé à la hausse puisqu'il y a beaucoup de portées disparues. Le mois dernier, la même région a été frappée par de violents incendies qui avaient détruit des centaines de maisons et fait des dizaines de morts. Plus de 8000 pompiers avaient été mobilisés pour venir à bout des incendies.
La Chambre des représentants américaine a approuvé ce jeudi la reconduction d'une loi autorisant les services de renseignement à intercepter les communications sur Internet à l'étranger. Et cette loi doit encore passer l'obstacle du Sénat. Ces pouvoirs sont si sensibles que le Congrès ne les accorde que pour des durées définies, forçant les parlementaires à régulièrement rouvrir le débat. La dernière fois datait de 2012, quand une nouvelle autorisation de 5 ans avait été adoptée. Le gouvernement haïtien et ses partenaires internationaux ont lancé ce jeudi un appel à financement à hauteur de 252 millions de dollars pour répondre aux urgences humanitaires pour l'année 2018. En 2017, Haïti a certes été épargné par les catastrophes naturelles qui ont été dévastatrices pour certaines îles de la Caraïbe, mais le pays reste en proie à une situation humanitaire inquiétante, car les conséquences des catastrophes passées n'ont toujours pas été résorbées. L'Équateur a naturalisé Julian Assange, le créateur australien de Wikileaks, réfugié depuis 2012 à l'ambassade de ce pays à Londres. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui la chef de la diplomatie équatorienne Maria Fernanda Espinosa. Quito avait ensuite demandé à Londres d'accorder un statut diplomatique, ce qui a été refusé par le gouvernement britannique. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco présentée ce soir par Eric Manirakiza.
La RDC devrait profiter de l'envolée des cours du cobalt et du cuivre. Le prix du cobalt a augmenté de 127% en un an pour atteindre 75 000 $ la tonne. Le cuivre est à plus de 7 000 $ la tonne pour la première fois depuis 3 ans et demi. Le boom mondial des batteries de smartphones et de voitures électriques a favorisé cette flambée. Kinshasa révise son code minier pour tirer profit de ce boom. L'Afrique subsaharienne s'attend à une meilleure croissance en 2018 qui devrait dépasser 3%. Une multiplication des investissements dans les infrastructures va impulser cette dynamique. Le Ghana, l'Éthiopie et la Côte d'Ivoire en seront les plus grands contributeurs. Le Nigeria, l'Angola et l'Afrique du Sud observeront une timide amélioration. L'Afrique du Nord et le Moyen-Orient connaîtront une nette progression de leurs économies. Le Burkina Faso et le Niger lancent respectivement en avril et octobre leur caisse de dépôt et de consignation. Elle sera dotée de 500 milliards de francs CFA au Burkina. Ce type d'institution existe déjà au Maroc, en Tunisie, au Sénégal, en Mauritanie, au Gabon, au Bénin, en Italie, au Canada et au Brésil. Selon les pays, la caisse de dépôt et consignation sert de fonds souverains ou agit comme une banque de développement ou banque commerciale. Le Cameroun et le Congo l'ont créée récemment. La Côte d'Ivoire suivra bientôt.
Place au sport à présent avec vous, Nicolas Pineau. Bonsoir.
Bonsoir Anastasie, bonsoir à tous.
Le joueur africain le plus cher de l'histoire du football est congolais.
Et il s'appelle Cédric Bakambu. Il évoluera avec le Beiji Gouang où il s'est engagé pour 4 saisons. Pour acquérir l'attaquant de Villarreal, on savait déjà que le club chinois avait levé sa clause libératoire de 40 millions d'euros. Mais en raison des nouvelles taxes imposées par la Chine, le Beiji Gouang a déboursé au total 74 millions d'euros pour faire de l'international congolais de 26 ans le joueur africain le plus cher de l'histoire. On rappelle que Cédric Bakambu va bénéficier d'un salaire annuel, tenez-vous bien, de 18 millions d'euros bruts.
Une fois n'est pas coutume, Nicolas, une femme à la tête du football malien.
Le comité de normalisation qui a été installé hier à la tête de la Fédération malienne de football. Hier, la commission conjointe FIFA-CAF a nommé Dao Fatoumata Guindo, présidente du CONOR. L'ancienne ministre des Relations avec les institutions sous l'ère ATT devra travailler pour l'élection d'un nouveau comité exécutif de la FEMAFOOT au plus tard le 30 avril prochain. On écoute la présidente du comité de normalisation.
La crise n'est pas sur le terrain, la crise est ailleurs. Je n'ai pas besoin d'être connue sur le terrain pour pouvoir gérer cette crise. Je fais confiance à ceux qui nous ont porté cette confiance-là et je fais confiance aussi à l'équipe que nous avons. Et ensemble, je pense que nous sommes tous fatigués. Tous les Maliens sont fatigués, tous les supporters sont fatigués et j'espère que nous allons avoir le soutien de tout le monde pour qu'ensemble, nous puissions enfin finir cette crise qui dure plus de 3 ans.
C'était Dao Fatoumata Guindo au micro VOA Afrique de Sia Traoré.
Et puis Chelsea et Arsenal se neutralisent.
Chelsea et Arsenal se sont neutralisés lors de la demi-finale aller de la League Cup 0-0. Tout se jouera donc à l'Emirates Stadium le 24 janvier prochain.
Quant à Zinedine Zidane, il prolonge son contrat avec le Real Madrid.
Et oui, l'entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane, dont l'équipe semble traverser une mauvaise passe, a confirmé hier soir avoir signé sa prolongation de contrat jusqu'en 2020 avec le club merengue. Déclaration du technicien français en conférence de presse après un match nul contre Numancia, 2 buts partout en Coupe du Roi.
Et on se quitte, Nicolas, avec la NBA, le championnat de basket nord-américain.
Oui, le champion NBA en titre Golden State s'est nettement incliné à domicile, 106 à 125 face aux Clippers de Los Angeles. Et ce, malgré Kevin Durant qui a franchi le seuil symbolique des 20 000 points marqués en NBA. Miami s'est hissé à la 4e place de la conférence Est après sa victoire sur le parquet d'Indiana, 114 à 106.
Merci. Nicolas Pineau.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Anastasie Tudiache avec vous pour la deuxième partie du Monde aujourd'hui. Voici les dossiers du jour. En République centrafricaine, afflux massif des déplacés vers Paoua. La population y a triplé en raison des déplacements dus aux affrontements entre troupes armées aux alentours de la ville. Les locaux montent au créneau, comme nous l'explique Freeman Sipila.
La région de Paoua s'enlise dans le chaos. Plus de 80 000 déplacés internes, 100 villages incendiés, une centaine de morts et d'énormes dégâts matériels. Le bilan est lourd selon le collectif des députés de Luampendi. Timoléon Baïkoua, député de Paoua 2.
La population de Paoua et en particulier la population de Paoua 2 qui regroupe les quatre communes. Commune de Babessar, commune de Miapendé, commune de Bang et commune de Nanabaria. Cette population vit une tragédie depuis plus de 2-3 semaines. La population est en détresse totale parce que vous avez 60 000 populations qui se sont réfugiées à Paoua Centre. Vous avez déjà 10 000 qui a traversé pour aller au Tchad et à peu près 25 à 30 000 dans la Brousse. Vous avez plus de centaines de villages brûlés. Vous avez les champs qui sont détruits, les bétails emportés. Vous avez des corps qui jalonnent même les routes sans que personne n'y prenne garde. C'est des situations, je dirais, c'est un désastre.
Les affrontements entre la Révolution Justice et les ex-sylicats du général Bahar, deux groupes rivaux, continuent d'affecter les différents villages. Anissé Georges Dologuilé, chef de l'opposition, craint une catastrophe humanitaire.
Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des questions humanitaires graves et urgentes en ce moment. Déjà, quand ils ont coalisé, c'était contre les populations. Maintenant qu'ils se battent entre eux, c'est contre les populations. Mais bon sang, finalement, il faudrait qu'un jour, ces groupes nous disent pourquoi ils portent des armes. Parce que les populations ne les empêchent pas de vivre. Mais eux, ils empêchent les populations de vivre.
Dépassés par l'ampleur des violences, les femmes ressortissantes de la région de Paoua à Bangui appellent les autorités à une action d'urgence afin de sauver des vies. Célestine Dibert-Bekoy est la chargée de communication de leur collectif.
Place au gouvernement, nous demandons très humblement l'accroissement de ces actions de retour de la paix. Ces groupes armés cessent de traumatiser la population, de maltraiter la population parce que c'est vraiment la politique de la terre brûlée. On chasse tout le monde n'a plus le droit de citer. C'est indescriptible.
La semaine dernière, les ministres de la Défense et de la Sécurité publique se sont rendus à Paoua pour s'enquérir de la situation. Selon le général Henri Wazé Lingisara, ministre de la Sécurité publique, les dispositions sont en cours pour assister la population en détresse.
La mission gouvernementale qui s'est dirigée sur les lieux a pu rencontrer les représentants des groupes armés qui étaient présents. On a échangé avec eux, avec les autorités administratives. Les ONG sur place à Paoua nous ont confirmé qu'ils des dispositions pour l'assistance alimentaire de cette population. Le gouvernement est en train de prendre ses responsabilités par rapport à la population dans la ville de Paoua.
Les affrontements aux alentours de Paoua ont éclaté fin 2017 à la suite de l'assassinat de Raymond Belanga, leader d'une faction RJ, par les ex-Séléka. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Jacques Aristide avec vous. Washington Forum braque les projecteurs ce jeudi sur la crise financière que traverse le Tchad, contraint de réduire à nouveau les salaires des fonctionnaires. D'autres pays africains se voient également obligés à prendre des mesures d'austérité pour sortir du marasme économique et satisfaire les bailleurs de fonds. Mais les fonctionnaires doivent-ils en faire les frais? Les gouvernements africains comme celui du Tchad n'ont-ils d'autre choix que d'augmenter les prix et de diminuer les salaires? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h10.
Au Gabon, la nouvelle constitution adoptée hier par le Congrès introduit un scrutin présidentiel à deux tours, mais ne limite pas le nombre de mandats à la tête de l'État. Autre nouveauté, c'est désormais le président de la République qui détermine la politique de la nation. Dans l'actuelle constitution, il le fait en concertation avec le gouvernement. Progrès, regret. Yacouba Ouédraogo a joint le professeur Auguste Eyéné Essono, analyste politique.
La démocratie est en régression. Les acquis que nous tenons de la conférence nationale de 1991 sont en train d'être sabordés.
Il est prévu que désormais, c'est le président seul qui détermine la politique de la nation, alors qu'auparavant, il le faisait en concertation avec le gouvernement. Il y a une sorte de renforcement du pouvoir du président de la République, bien sûr.
À travers ce projet, il y a une sorte d'hyper-présidentialisation, n'est-ce pas, de la gestion du pouvoir. comme vous pouvez l'observer, plus on présidentialise la gestion du pouvoir dans un pays, moins la démocratie existe, moins elle est une réalité.
La nouvelle constitution introduit un scrutin présidentiel à deux tours désormais. C'est un souhait de l'opposition.
Oui, je vais être honnête avec vous, c'est une bonne nouvelle. Une élection à deux tours est une élection démocratique. Lorsqu'une élection n'est qu'à un tour, cela porte en soi un déficit de démocratie. Mais je dois rappeler que la constitution de 1991 prévoyait déjà une élection à deux tours. Et permettez quand même que je nuance moi-même mon enthousiasme, parce que le problème de ce pays, ce n'est pas la constitution. Le problème dans notre pays, c'est l'éducation des élites politiques.
Le professeur Auguste Eyene Sono, joint à Libreville. Yacouba a également recueilli la réaction du porte-parole du gouvernement gabonais Alain-Claude Bilipinzé.
Jusqu'à cette modification, les élections politiques étaient à un tour à la majorité simple. Là maintenant, on revient à deux tours de scrutin, qu'il s'agisse de l'élection présidentielle ou des élections législatives. Donc c'est une avancée majeure. L'autre avancée, parce que la contestation a porté également sur la Cour constitutionnelle. La modification de la Constitution fixe maintenant le mandat des membres de la Cour à un mandat unique de 9 ans non renouvelable. Et de même que la composition de la Cour a été modifiée, désormais des personnalités issues du milieu des droits, qu'il s'agisse de professeurs de droit, d'avocats, de la société civile pourront être membres de la Cour constitutionnelle. Mais ce sont des avancées significatives.
Il n'y a toujours pas de limitation du mandat présidentiel et désormais il est dit que c'est le président seul qui détermine la politique de la nation. Auparavant, il le faisait en concertation avec le gouvernement. Il y a une sorte de renforcement du pouvoir du président de la République.
Un exécutif a un chef, c'est le chef de l'État. Un exécutif n'a pas de chef.
Alors, l'opposition, elle, considère plutôt que cette nouvelle constitution consacre une sorte de monarchisation du pouvoir. Que lui répondez-vous?
Au Gabon, pour être président, il faut être candidat à une élection présidentielle et chacun peut ouvrir la compétition. Je ne vois pas où est la monarchisation. Il n'y a pas du tout au Gabon de dévolution du pouvoir de manière familiale. Le pouvoir, c'est par l'élection devant le peuple, par le suffrage universel. Je ne vois pas où est la monarchisation.
Alain-Claude Bilipinzé, porte-parole du gouvernement gabonais.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le Sahara mauritanien a accueilli fin décembre son tout premier groupe de touristes depuis 2011. Après avoir reçu la visite de plus de 14 000 touristes par an, l'Adrar mauritanien a fini par disparaître des circuits touristiques avec la multiplication des attaques djihadistes. En mars 2017, le ministère français des Affaires étrangères a allégé ses recommandations aux voyageurs sur cette partie du désert prisée des touristes. Cette modification est suffisante pour reprendre les circuits. Pour plus de détails, Claire Morin-Gibourg a joint le directeur du tour opérateur Point Voyage. Il s'appelle Kevin Girard. Écoutons-le.
Alors c'est vrai que cette destination elle est fermée entre guillemets depuis une dizaine d'années, depuis malheureusement l'assassinat en fait de quatre concitoyens français là qui se sont fait assassiner en fait à Alègue et qui a plongé en fait la destination dans le problème d'une absence touristique totale. Hein. Et c'est vrai que les Français étant majoritaires, on a fui complètement le pays pour des raisons sécuritaires.
Qu'est-ce qui concrètement vous a permis de revenir dans la région?
La sécurité, la sécurisation en fait de la zone.
Plus précisément et plus concrètement, est-ce que c'est l'opération Barkhane qui vous a permis de réouvrir cette destination?
Pas du tout. Alors quand je dis pas du tout, c'est pas tout à fait la vérité. Bien sûr que c'est l'opération Barkhane dans la mesure où toute cette opération en fait au sens large a permis aux Mauritaniens déjà de pouvoir constituer en fait une vraie armée bien évidemment, mais ce n'est pas ça qui a impulsé en fait les choses. Depuis que les consignes sécuritaires se sont allégées, nous pouvons d'ores et déjà, puisqu'on passe en orange, or le orange ça fait toute la différence avec le rouge, puisque en orange, eh bien de nouveau, les assurances peuvent s'exercer en fait sur le territoire concerné. Et donc ça change tout pour nous, puisqu'on est désormais couvert. Et puis on peut donc s'y rendre juridiquement et puis tout simplement moralement, hein, parce qu'il ne s'agit pas de faire prendre le moindre risque à nos clients, bien évidemment. Mais surtout ça change tout parce que ça allège les consciences et puis ça rassure les gens. Et donc l'élan est de nouveau présent.
Qu'est-ce qui, selon vous, a fait changer les consignes de sécurité du Quai d'Orsay ?
l'opération Serval et Barkhane et toutes ces opérations militaires sur le terrain africain sont tout à fait nécessaires. Sauf que, eh bien, le djihadisme ou l'obscurantisme en règle générale, c'est comme tout. Vous pouvez le chasser, mais si vous n'occupez pas le terrain et si vous n'appliquez pas un maillage socio-économique, eh bien, ça revient. Parce que, malheureusement, ces terrains fertiles que sont la pauvreté, la misère, et puis quand on greffe à ça, comment dirais-je, un mauvais climat, une mauvaise année, une sécheresse, une mauvaise soudure, bon, bah, forcément, l'obscurantisme gagne encore plus de terrain. Et donc, son discours était le suivant, c'était de dire, c'est bien que la France intervienne, c'est nécessaire que la France intervienne militairement, c'était d'ailleurs un succès. Simplement, si on ne fait pas quelque chose, eh bien ça va revenir. Et d'autant plus en Mauritanie.
C'était Kevin Girard, le directeur du tour opérateur Point Voyage.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Mise en onde, Cheikh Thiéro, assisté de Nachwan Kalé. Je suis Anastasie Tudiech. Pour l'actualité 24 heures sur 24, rendez-vous sur notre site voafrique.com et sur notre page Facebook. Très belle soirée à l'écoute des programmes de VOA Afrique.
Salut les amis, c'est Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans Arab Show à 20h temps universel. Au menu African Music, les anciens et nouveaux morceaux africains. Suivez-nous en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205-2633. 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel, sur VOA Afrique. Peace Africa!